Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission qui vous résume toute l'actu importante, les choses à retenir dans l'industrie du jeu vidéo et du gaming. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on a une émission assez intéressante à vous proposer. On va vous parler de la conférence Oculus Connect 3 et des annonces qui ont été faites là-bas, en tout cas des annonces qui pourraient avoir à voir avec le jeu vidéo à un moment. On a aussi pas mal de choses à vous dire sur la conférence TwitchCon où Amazon a présenté des nouveautés pour Twitch qui risquent de changer un petit peu le panorama du streaming dans le monde. On a aussi des informations sur l'e-sport et sa croissance inexorable. Et pour m'aider à parler de tout ça, j'ai une personne qui s'y connaît à la fois en Oculus et en Amazon et en Twitch. C'est Cédric Bonnet qui se joint à moi pour cette émission. Comment ça va, Cédric ?
Bah, écoute, parfaitement bien, surtout depuis qu'Amazon a activé les Twitch Prime.
Alors, on va en parler, hein, mais t'as pas peur que bien le sûr. Fait qu'il faille renouveler tous les mois l'abonnement, ça soit un petit peu dangereux pour la stabilité des revenus ?
Eh bien, tu sais quoi, ça nous pousse à être meilleurs.
C'est vrai,
c'est tout.
Très bien, très bonne réponse. Tu t'es préparé pour le débat
exactement.
Politique.
Exactement.
Ok, bon, bah, on va y revenir dans un instant, mais avant, j'aimerais... Alors, on a aussi des news sur les jeux spécifiquement. Bien sûr, on va parler Forza, je vais vous donner mes impressions sur Destiny Rise of Iron. On a testé quelques petits trucs en plus. Il y a un trailer pour le MMO The Old Republic de folie. Mais bon, on va y venir. Avant ça, la conférence, le gros morceau, Oculus Connect 3. Alors, c'est la troisième année qu'ils font une conférence sur leurs produits et la réalité virtuelle en général. On avait cette année Mark Zuckerberg qui a fait une longue présentation. Il y avait beaucoup de choses. Alors, on va peut-être pas parler d'absolument tout parce que tout n'a pas forcément à voir avec le jeu vidéo. Et à vrai dire, il y avait beaucoup de choses qui avaient à voir plus avec l'avenir de la réalité virtuelle. Mais on est quand même dans des milieux connexes. Donc, parlons un petit peu des choses qui nous ont le plus impressionnés. Moi, il y a deux choses que je retiens, mais il y en a plein dont on peut parler, mais deux choses que je retiens, c'est la présentation qu'a fait Mark Zuckerberg de la réalité virtuelle en social, c'est-à-dire de la représentation des gens et des émotions dans des espaces de réalité virtuelle qui était bluffante, et la manette touch. Je sais pas si toi, ces deux choses, enfin, il y a d'autres choses, on va les évoquer aussi, mais principalement ces deux-là.
Mais c'est pareil que toi.
Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, pour bien expliquer aux gens qui nous écoutent, qui n'auraient pas vu la présentation, je vais très rapidement décrire cette démo qu'il a fait, Zuckerberg. En fait, il était dans un espace de réalité virtuelle avec deux autres personnes, et la chose qui était le plus impressionnant, c'était effectivement la représentation des autres personnes. Ça tient à pas grand chose, en fait, hein. C'était des représentations très cartoon, c'était pas du tout réaliste, mais ce qui rendait les choses vraiment, je dirais crédible, réel, même si c'était des dessins animés, des cartoons, c'était les expressions du visage qui étaient pas forcément retranscrites de manière hyper fidèle, mais par contre on voyait quand il parlait la bouche bougeait, et il bougeait quelques parties du visage, genre les sourcils, les yeux s'écarquillaient, donc les expressions se voyaient. J'imagine, je sais pas très bien comment c'est fait ça, j'imagine qu'il y a des caméras sur eux avec de la reconnaissance faciale, un truc du genre, et les mains qui était pas juste, les mains étaient représentées, mais les mouvements des doigts étaient représentés. Donc, il pouvait pointer quelque chose du doigt, ouvrir la main, etc. Et ça, c'est grâce à la manette touch qui est prévue pour ça. Mais ces deux éléments, en fait, ont rendu la chose tellement convaincante que du coup, ça m'a presque fait changer le regard que je portais sur la réalité virtuelle. Je me dis, ce type d'immersion, ce type de présence numérisée, je parle depuis longtemps de la numérisation de la présence qui fait qu'on peut faire beaucoup de choses avec la réalité virtuelle.
Ce que Marc appelle la téléportation d'ailleurs. Hein.
Mais non, mais c'est ça. Moi, je me souviens, j'ai donné une conférence il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi, et je disais, c'est la présence numérisée qui change tout. De la même manière qu'on a numérisé de la musique, de la vidéo, du texte, ça a donné Internet. La musique, c'était les MP3. La vidéo, bah, c'est le streaming, les vidéos. C'est ce qui fait que ça ouvre les possibilités. Ben là, on numérise la présence et le fait de numériser, en fait, les expressions, les mouvements des mains, tout ça, ça rend ça crédible. Tu disais que tu avais été impressionné aussi.
Moi, j'ai été bluffé. L'expression des visages, enfin, tout ça, t'as pas la sensation, même si c'est un avatar, tu vois, on voit bien que c'est un avatar, hein, mais
c'est un peu les avatars Xbox Live, ouais, c'est ce type de graphisme, quoi.
Mais alors, pour le coup, tu ressens plus d'émotions à travers cela qu'à travers ceux du Xbox Live, hein.
Bien sûr.
Mais t'as la sensation quand tu parles à quelqu'un ou quand quelqu'un te parle, d'avoir quelque chose d'intelligent et de vivant en face de toi. Je sais pas comment expliquer ça, mais...
Bon, ça dépend qui te parle, hein. Il y a des gens...
Non, mais bien sûr. Ouais, bon, je suis d'accord. T'as regardé le débat hier soir, c'est ça, américain. Forcément. Je sais pas si c'est de ça que tu voulais parler, mais...
Oh, c'était pas forcément, mais ça marche aussi, oui.
Voilà, ça marche aussi. Ouais, moi, ça m'a complètement bluffé. En fait, pour tout te dire, je fais partie des gens qui sont complètement sceptiques sur la VR. Et pourtant, je l'ai essayé plein de fois avec Project Car, j'ai oublié le nom. Elite.
Elite Dangerous, ouais.
Si tu veux, je l'ai testé avec ces jeux-là qui normalement devraient me parler à moi, gamer. J'adore les jeux de caisse et j'adore les jeux dans l'espace, les jeux de shoot spatiaux et les simulations spatiales. Eh bien, ça m'avait quand même laissé sur ma faim. Et j'avais pas la, enfin, si tu veux, je m'étais dit, ok,
dépenser.
Pas
partie des convaincus, quoi.
Ben non, mais je me disais surtout, vu le prix d'entrée et la machine que ça nécessite, est-ce que finalement, je ferais pas mieux de dépenser 4 fois moins en m'achetant un superbe écran G-Sync, par exemple, ouais, plutôt que de dépenser autant pour avoir un appareil de ce style. Alors, je t'avoue que cet avis-là datait aussi de avant les nouvelles cartes Nvidia qui ont sacrément mis un coup de pied dans les prix des cartes graphiques pouvant faire de la VR. Mmh. Et puis surtout, ils ont annoncé que maintenant, on pourrait le faire tourner sur un PC moins puissant que ce qui était annoncé au départ.
C'est une autre de leurs annonces. Ils ont développé une technologie qui s'appelle Asynchronous Time Wrapping, en bon français. Ouais. En gros, ce que ça veut dire, c'est que ça calcule, je schématise, hein, mais ça calcule qu'une image sur deux et l'autre image, il peut la déduire des images précédentes. Et du coup, ça divise la puissance nécessaire par deux. Et donc, une machine à 500€ peut faire tourner...
Dès 970, en gros, il t'explique que ça peut faire tourner bien.
960 même.
Ou 960, bon, mais parfait. Du coup, c'est parfait, j'ai une 960 à la maison.
C'est pas la meilleure expérience non plus, hein, je crois.
Bien sûr.
Mais du coup, ça t'a plutôt...
Me dire, bon, ça devient un peu plus accessible. Bon, c'est normal.
Non, je veux dire,
hein,
la démo, là.
Mais la démo, ouais, la démo, en fait, m'a fait dire, tiens, il y a un usage. Il y a enfin un usage qui pourrait valoir le coup. Et j'ai pensé, tu vois, à mes potes qui sont loin, pouvoir faire une partie autour d'une table. Alors, on est plus dans des petits jeux. Ils ont fait la démo, tu vois, d'un jeu de cartes, de ce genre de choses et tout ça. Mais on parle de jeux vidéo, mais on peut aussi parler de jeux de plateau qui restent du jeu. Là, je me suis dit, waouh, le jour où ils sortent des espèces de STR ou même de tour par tour, où on peut être autour d'une table et jouer tous ensemble, bouger nos pions et ainsi de suite. Ou même un jeu de rôle ou que sais-je.
Il y a quelque chose de magique.
Je me suis dit, il y a une vraie expérience à vivre. Même si c'est un jeu, tu vois, avec nos avatars placés les uns à côté des autres, on peut arriver à s'imaginer dans une pièce ou dans... Je me suis dit, c'est assez incroyable. J'ai repensé, je sais pas si tu as déjà fait un escape game dans ta vie, Patrick.
Non, jamais.
J'en ai fait un, moi, pour mon anniversaire. Toute l'équipe de Geeking m'avait offert ça. J'ai trouvé ça fantastique et je me suis dit, c'est bête qu'on retrouve... Enfin, il y a des jeux vidéo qui permettent de le retrouver ça, mais je me suis dit, tiens, en VR, ça pourrait être top. Et alors, si on peut le faire en VR en équipe, ça peut être absolument génial. Et là, quand j'ai vu cette démo-là, je me suis dit, waouh, c'est bon.
C'est vrai que...
On a le truc pour le faire, quoi.
C'est vrai qu'il se passe quelque chose en voyant cette démo. Il y a ce sentiment de présence et je crois que... Il en parlait justement, Zuckerberg. Il disait, dans la tech, il est souvent plus facile de prévoir comment ça sera dans 20 ans plutôt que dans 3 ans. Moi, je crois que c'est pas super facile de prévoir vraiment comment ça sera dans 20 ans non plus, mais mais c'est vrai qu'à 3 ans, même à 3 ans, on a du mal à... Et sur ce cas spécifique, en tout cas, on imagine bien que dans 5 ou 10 ans, quand on aura des lunettes beaucoup plus petites, et ils en parlaient aussi, ils disaient le but ultime, c'est d'avoir des lunettes minuscules, d'avoir plus de facilité, par exemple... On a toujours besoin aujourd'hui d'avoir avec les. Ils ont annoncé qu'on pouvait aussi faire du room scale VR, c'est-à-dire oui. De la réalité virtuelle dans toute la pièce où on pouvait se déplacer, marcher, etc. Et on a besoin pour ça de plusieurs capteurs, de trois oui. capteurs d'ailleurs, ce qui amène le prix d'ailleurs de l'Oculus VR pour faire ça. Même un petit peu plus cher que le HTC Vive. Donc on est dans le
même HTC Vive qui a ce type de capteur.
Qui les a déjà, oui. Mais donc à terme, il y aura ce qu'ils appellent les caméras, la détection de l'environnement inside out, c'est-à-dire depuis les lunettes elles-mêmes qui vont regarder vers l'extérieur, repérer ce qu'il y a et donc savoir vous placer dans l'environnement et vous dire si vous approchez trop d'un mur, alors qu'aujourd'hui c'est compliqué de repérer l'environnement de
aujourd'hui à part inside avec HoloLens.
Aujourd'hui en fait, il faut ces capteurs, donc c'est du outside et in, voilà. Mais à terme dans 10, 20 ans, peut-être même dans 10 ans plutôt que 20 ans, on peut imaginer que ces casques de réalité virtuelle seront effectivement que des lunettes qu'on pourra utiliser partout, peut-être même avant. Ouais.
Mais tu vois les projets de Google avec leur téléphone qui capte l'environnement,
Le projet Tango, etc. Et
même, voilà, donc imagine ça dans les Oculus Rift, c'est bon, c'est réglé.
Tout à fait, mais ils ont même présenté un prototype qui s'appelle Santa Cruz, qui est leur casque de réalité virtuelle, mais totalement sans fil. C'est-à-dire que tout est sur votre tête, y compris les calculs, vous n'avez pas besoin de le relier à un PC. C'est plus proche du mobile, c'est entre le mobile et l'ordinateur j'ai mon truc qui sonne, pardon, entre le mobile et l'ordinateur de bureau. Mais là, à quoi je veux revenir avec cette démo là, c'est que ça nous donne donc cette vision du futur quand on pourra effectivement tous avoir accès à une réalité virtuelle facilement, que ça sera pas le Go casque que tu dois mettre sur la tête peut-être pendant des heures qui va te fatiguer peut-être
avec 12 kilomètres de câble,
c'est ça. Et du coup c'est vraiment cette vision à moyen terme, on va dire, qui est enthousiasmante. Je crois qu'on sait toujours pas vraiment à quoi ça va servir tout de suite demain, non. Parce qu'il y a plein de handicaps dont on parle très souvent et qu'on va pas répéter ici, mais voilà, cette vision était enthousiasmante. Et je crois qu'il est difficile de voir ça et de ne pas se dire, ah ouais, il y a un truc là. Il y a sans doute un truc. Et l'une des composantes, c'était ces contrôleurs, ces manettes touch qui sortent bien pour 200€ à peu près à la fin de l'année. Et ce qui est vraiment malin, contrairement aux autres manettes de réalité virtuelle, c'est que les autres manettes, celles du Vive, celles du PlayStation VR, c'est en fait des Wiimote avec des boutons, on va dire.
Oui, c'est ça.
Là, ils essayent de modeler les mouvements de la main, c'est-à-dire qu'on a des capteurs, je vous passe les détails, mais on a tout un tas de capteurs qui font que si on pointe du doigt, il sait on est en train de pointer du doigt, si on lève le pouce, il sait qu'on lève le pouce, il y a trois doigts trois boutons spécifiques et des capteurs, bref, qui font qu'il repère presque tous vos mouvements de main. Et là encore, c'est un, comme on dit en anglais, un game changer, quoi. C'est vraiment, et je suis convaincu que tous les acteurs de la réalité virtuelle vont avoir ce type de périphérique parce que ça change tout.
C'est clair, le PlayStation Move est ridicule à côté, hein.
Le PlayStation Move, les trucs du Vive, ça fait le job parce que ça vous permet de déplacer vos mains.
Bien sûr.
Mais c'est plus la même chose. C'est comme quand vous avez un visage d'un ami qui a fait un avatar et le même visage de cet ami qui s'anime avec ses expressions faciales qu'on a vues dans la démo. C'est pas la même expérience, quoi.
Ouais, c'est clair.
Donc les touch, t'as été convaincu aussi.
Ah oui, non, mais enfin, je trouve que ce contrôleur est hallucinant, quoi. Enfin, technologiquement parlant, on est face à un des contrôleurs les plus avancés qui était conçu, quoi. Et surtout, contrairement aux autres, c'est pas quelque chose. Enfin, ils sont pas partis du principe de dire bah, comment je transforme une manette en contrôleur pour VR. J'ai l'impression que la démarche a plutôt été l'inverse, c'est-à-dire comment je fais un contrôleur dédié à la VR sans partir des choses qu'on connaissait. En gros, on élimine
et qu'il soit
le
cohérent pour répondre
voilà.
On élimine les
entre guillemets les contraintes qu'on s'impose aujourd'hui en disant bah il faut qu'il y ait X boutons, il faut que le pouce et les doigts tombent machin dessus. Et en fait ils ont dit non mais on va plutôt prendre l'anatomie de la main. On va dire bah, comment est-ce que ça se passerait dans la VR. Est-ce que je pointe des choses? Est-ce que tu vois? Je pense que la démarche en fait a été complètement différente des autres fabricants quoi. Et c'est pour ça qu'on a un contrôleur qui est quand même bah, vraiment différent et adapté à la VR quoi. C'est surtout ouais. ça.
On est d'accord. Bon, donc voilà en gros pour les trucs qui sont passés à l'Oculus Connect 3. Rien encore une fois de super concret, mais moi j'ai trouvé un enthousiasme pour la VR que je ne me connaissais pas jusqu'à maintenant. J'avais, comme je disais dans l'épisode précédent, j'avais été un petit peu ouais bon, on verra. Là, je me dis quand même.
Mais là,
y a
voilà,
un truc.
C'est pareil. Il y a un truc qui s'est allumé dans mon cerveau là, tu vois.
Ouais, pareil. Ouais.
Alors que jusqu'à présent,
c'est un neurone qui s'est.
Alors voilà, alors que jusqu'à présent, c'était plat, tu vois. Il se passait rien dès qu'on me parlait de VR, et là, pim. Ouais. Il y a un truc qui s'est allumé en disant ah tiens.
Peut-être.
Voilà un usage.
Bon, il y avait plein d'autres trucs qui ont été montrés. Juste le dernier truc que je voulais dire sur cette démo là, c'est que au début ils commencent et ils sont dans la pièce, dans la salle de conférence, et puis ils se transportent, ils se téléportent dans d'autres environnements. Et ça, le signe que ça a vraiment marché pour moi en tout cas, c'était vraiment que à la fin de la démo, ça a duré peut-être 5 minutes, 10 minutes, à la fin de la démo, j'avais oublié qu'ils étaient dans la salle de conférence. Ouais. Et quand Zuckerberg a enlevé son casque et donc on est revenu à la caméra qu'il filmait lui, je me suis dit ah ouais putain, ils sont toujours là.
Exactement.
Ah ouais, pareil hein, ça t'a fait la même chose.
Ah mais ça m'a fait exactement la même sensation. Je me suis dit il a quitté son téléporteur et même limite tu te dis non mais vas-y retourne.
Ouais ouais, retourne non mais c'est ça parce qu'ils sont allés au fond de l'océan sur Mars, ah, ouais, ouais. À différents, enfin évidemment tous ces trucs auxquels on pourrait s'attendre, mais bref, à voir. Le dernier truc que je voulais dire sur cette conférence, c'est que il n'y avait pas de Palmer Luckey du tout par rapport à ce qu'on avait dit, et c'est la controverse de son soutien politique, ah, oui, de la dernière fois. Je suis quasiment certain qu'il aurait dû être là et qu'il a été retiré de la conférence juste avant, et ce qui est normal hein, au niveau communication, on veut pas que la conférence les journalistes parlent de son
aussi,
bah
ouais.
C'est même pas ça, c'est que ça aurait fait, ouais, du, oui, sujet, sûr, principal de la conférence Palmer Luckey et ses problèmes, et effectivement c'était au niveau communication et relations publiques une bonne chose certainement. C'est malheureux pour lui, mais c'était une bonne chose qu'il ait été viré de la conférence, parce qu'on aurait parlé que de ça. Alors que là, ouais, on a parlé de beaucoup d'autres choses.
Il y avait des sujets beaucoup plus intéressants que ça, quoi.
C'est sûr. Petit mot rapide sur le PSVR, hein, le PSVR qu'on n'oublie pas. Il sort dans 3 jours maintenant, donc au prochain épisode, on aura eu le temps de l'essayer. Bon, on va pas en parler plus. Vous savez tous ce que je pense de tout ça et du marché de la VR, donc je vais pas me répéter, mais ouais, simplement pour dire.
Il y a beaucoup qui pensent que c'est grâce au PlayStation VR que justement ça va se démocratiser.
Bah c'est ce que je dis depuis un an ou deux, et puis quand je dis ça, on me dit ah oui mais on le sait, tu le répètes tout le temps. Donc justement, je ne le répète
bon,
pas.
Ok, mais là c'est moi qui l'ai dit, c'est pas grave.
Voilà.
Non mais je pense que ça va être le cadeau de Noël, tu vois.
C'est ouais, ça fait un peu cher quand même.
Si. Ouais, ça fait un peu cher, mais d'un autre côté, tu sais, c'est le truc toute la famille va vouloir essayer parce que peut-être, le grand-oncle l'aura offert au neveu, tu vois, enfin. Mm.
Tu en prends
et après, je pense que ça fera comme la Wii U, c'est-à-dire que ça finira dans un placard. Non, je déconne. Mais non, mais le truc, c'est pour moi, le jeu vidéo, c'est une expérience qui se partage, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça.
Mais... Oui, mais avec une des différences dont on n'a pas souvent parlé avec le PSVR, c'est que quand tu mets ton truc sur la tête, tu as aussi l'image sur la télé. C'est d'ailleurs l'une des fonctions principales du petit boîtier supplémentaire. Et c'est vrai que ça rend la chose beaucoup plus sociale. Et effectivement, pendant la fête de Noël, tu peux l'essayer. Bah, voilà. Sortir, et là,
et voilà,
tout le monde
gens
peut
vont
participer
rigoler,
un petit
ça,
peu.
Machin. Ouais. Donc, je pense qu'il va bien se vendre. Après, il faudra voir ce que ça va donner en termes de jeu. J'attends de voir. Ils avaient annoncé un jeu dont j'ai oublié
le
nom.
Le
un
truc
jeu très orienté
que...
e-sport, tu sais.
Riggs.
Riggs, voilà, ouais. Exactement.
Ouais,
Riff,
moi j'ai
mais non, dans c'est tout,
dans toute la liste, j'ai toute la liste là en face de moi, il y a Riggs, il y a PSVR Worlds, il y a Drive Club, il y a Until Dawn, il y en a un dont peu de gens parlent, c'est Thumper, qui est un jeu de course psychédélique, un petit peu dans le style de Rez Infinite qui est aussi un truc. Il y a Batman VR que j'aimerais bien essayer, mais en même temps, tu vois, il y a plein de petits jeux comme ça et à chaque fois c'est 20 euros, 30 euros, tu vois, et genre Batman VR, ça va pas être très long, c'est juste Be the Batman. Donc bon, on aura testé au prochain épisode, on pourra vous en parler plus longuement. Mais toi, tu vas en acheter un ou pas?
Bah écoute, peut-être
pour Noël, mais autour de avec la famille.
En fait, je sais pas. J'aimerais l'essayer d'abord.
Et je crois que ça va être le cas de beaucoup de monde, ouais.
Parce que bon, à Noël, je vais avoir une PS4, tu vois, c'est prévu.
Ah, t'en as pas encore?
Non, parce qu'en fait, j'attendais la sortie de Horizon et de quelques gros titres avant de me jeter dedans. Et puis, j'ai bien fait d'attendre, puisque maintenant, il y a la PS4 Pro, lol. et surtout, il y a la PS4 bien moins chère.
La Slim,
mais,
ouais.
De quoi?
La Slim.
Oui, la Slim, oui. Donc, du coup, j'ai bien fait d'attendre, tu vois, je suis content de m'y mettre que maintenant. Et justement, la question est avec PlayStation VR ou pas? Et donc voilà, je vais l'essayer avant parce que je pense qu'au studio chez nous il y en a qui vont le prendre. Donc j'essaierai, et puis si je suis convaincu, je le prendrai. Mais je t'avoue que bon, voilà, pour moi le line-up me parle pas trop, quoi. Enfin, je sais pas. J'ai encore un petit souci sur ça. Et puis en fait, je veux aussi voir si je vais être complètement malade et auquel cas ça vaut pas le coup d'investir.
C'est tout à fait, je pense, l'attitude que vont avoir pas mal de gens.
Ah bah ouais.
Donc, voilà.
Ouais, ouais. Et Oculus, j'ai été malade avec le premier kit. Avec le Dev Kit 2 à l'époque, j'avais été moins malade, mais enfin disons que j'avais pu tenir plus longtemps avant que la gêne arrive.
Mais ouais, je crois que ce dont tu parles, le fait de le tester, et c'est ça qu'amène en fait le PSVR, c'est que il va être dans beaucoup plus de foyers, surtout à Noël, effectivement, même si ça va pas être un succès fou immédiat, mais au moins beaucoup de gens pourront le tester et décider.
Préparer les sacs à vomir.
Pas le cas jusqu'à maintenant. Préparer les.
Parce que dans la famille, il y a bien quelques-uns qui vont être malades.
Bon, bah écoutez, sur cette image magnifique pour votre fête de Noël, je vous propose d'avancer avec Amazon et sa TwitchCon, puisque Twitch appartient désormais à Amazon, avec un certain nombre d'annonces. Bah oui, ça fait 2 ans. Et donc, il y a effectivement une annonce assez importante dont vous avez très certainement entendu parler, c'est la création et l'intégration de Twitch Prime dans Amazon Prime. Et la raison pour laquelle je dis immédiatement dans Amazon Prime, c'est que c'est ça qui change vraiment les choses, parce qu'il y avait déjà l'offre Turbo de Twitch qui permettait aux fans de streamers de s'abonner à Twitch et éventuellement de soutenir des streamers qu'ils appréciaient. Et ben là, c'est transformé en Twitch Prime. Et si vous êtes déjà abonné Amazon Prime, vous avez également Twitch Prime, ce qui vous retire les pubs de Twitch et vous donne la possibilité de soutenir chaque mois un streamer que vous aimez.
Partenaire,
bien sûr. Il faut renouveler l'abonnement chaque mois. Donc, c'est pas vous le mettez pour un an et puis c'est terminé. Donc, il faut vraiment y aller chaque mois. Il y a eu tout plein d'annonces sur lesquelles on va peut-être revenir, mais celle-là, c'est vraiment la grosse annonce. C'est d'une part une énorme annonce pour Amazon, parce que aujourd'hui, je crois, c'est toi, Cédric, qui m'avait converti à Amazon Prime, parce que
quand
on est parisien, enfin quand on est un endroit où il y a Amazon Prime, je dis ça parce que je suis en Finlande en ce moment. C'est hyper pratique si on achète beaucoup de choses sur Amazon. Mais ils ont rajouté tellement de choses au fur et à mesure. Et aujourd'hui, avec Twitch en plus, j'en suis presque à me dire, mais Amazon Prime, c'est financièrement irresponsable. Je sais plus qui disait
mais
ça, ça m'a fait marrer. C'est financièrement irresponsable de ne pas avoir Amazon Prime, presque.
Exactement.
Mais avec Twitch Prime en plus, pour l'écosystème du streaming de jeux vidéo, c'est vraiment hyper important comme mouvement, non?
Ah, mais pour moi, c'est même un tournant. Jusqu'à présent, en fait, on avait, bon, alors pour expliquer, hein, comme tu disais, il y a plusieurs façons de gagner de l'argent avec Twitch en étant streamer. Donc la publicité, Voilà, c'est le truc classique. Bon, beaucoup de gens ont un adblock, donc autant vous dire que la publicité, ça rapporte pas grand-chose. Et l'autre, enfin, ensuite il y a les dons, évidemment. Et puis l'autre penchant, c'est en gros l'abonnement à une chaîne. Vous payez en fait, en gros, c'était $5 l'abonnement, et vous avez la possibilité donc de soutenir votre streamer, et lui se finance grâce à ça. Alors, pour avoir cet abonnement, s'il faut être partenaire Twitch, bon, je rentre pas dans les détails parce que parfois c'est un peu obscur pour devenir partenaire. Mais en gros, il faut avoir beaucoup de monde sur ses streams, hein, c'est pas donné à tout le monde. Ou alors avoir beaucoup d'abonnés à sa chaîne Twitch, ça aide aussi. Donc quand vous êtes partenaire, vous pouvez activer cette option-là.
Sa chaîne Twitch. Oui, d'accord, ok.
Ouais. Donc une fois que vous avez activé ça, les gens peuvent s'abonner à votre chaîne donc en payant, ou alors s'ils sont Amazon Prime ou donc Twitch Prime, ils ont la possibilité donc de cliquer sur s'abonner, et vous touchez une partie de l'abonnement Twitch Prime. Alors dans les faits, je peux même vous dire exactement, c'est en gros 2,50€, enfin $2.50, donc 2€ en gros, quand un Twitch Prime s'abonne à votre chaîne. Donc c'est pas non plus incroyable, mais quand on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont Amazon Prime, ça peut vite chiffrer. Et pour tout vous dire, nous, les revenus de la chaîne sont passés de anecdotiques à maintenant ça commence à compter.
Tu peux donner des chiffres ou c'est...
Ouais, ouais, bien sûr. Ah non, c'est pas du tout secret. Pour tout vous dire, la publicité nous rapportait à peine une vingtaine de dollars mensuels, ce qui est rien du tout. Mais on avait pas mal de subs. On était une soixantaine. Une soixantaine de subs, donc d'abonnés payants. Ce qui faisait que ça nous rapportait en gros, 140 à $150 par mois. Et là, en fait, depuis que Twitch est lancé, ben, on a multiplié par 3 le nombre de subs. Donc, en gros, on est passé de 120 et quelques à $360, ce qui commence à être significatif. Alors, je dis pas que 120, ça l'était pas, hein, mais $360 mensuels, c'est déjà pas... Et sachant qu'au moment où je vous parle, là, j'ai vu sur le stream de Geeking qu'il y a encore eu 2 nouveaux subs. Hein. C'est-à-dire que par jour, on a entre 10 et 15 personnes qui s'ajoutent depuis que ça a été lancé.
Ouais, j'imagine que comme on plaisantait tout à l'heure, ça va se stabiliser un petit peu en dessous du niveau max.
Ouais, ça va se stabiliser,
certainement,
oui, bien sûr.
Voilà, puisqu'il faut y aller tous les mois, mais comme tu le disais aussi, bah ça veut dire qu'il faut être actif et efficace
et convaincant. Il
faut être
actif, faut streamer, faut être bon, parce que effectivement, d'un mois sur l'autre, le streamer peut cliquer sur s'abonner sur une autre chaîne, quoi.
Ou même donc, oublier de
renouveler. Alors, j'avoue que nous, en plus, on a un petit avantage. C'est quand on est sub Twitch Prime, on a accès au Slack de l'émission. Donc, du coup, on peut facilement rappeler aux gens d'aller se rabonner.
Effectivement. Bah, c'est la gestion de la communauté, hein.
Bien sûr, nous, on leur donne en plus un bonus. Tu vois, voilà.
Mais du coup, est-ce que tu crois que, au-delà du plaisir que ça fait d'avoir les centaines de millions d'abonnés Amazon Prime, qui sont tout à coup dans une position de soutenir des streamers qu'ils apprécient. Moi, j'ai vu énormément, enfin, les réactions ont été les mêmes à peu près partout, en français, en anglais, partout sur Twitch. Tout le monde a vu son nombre d'abonnés se multiplier, ce qui est tout à fait logique. Est-ce que tu crois que ça peut légitimiser les gens qui vivent ou qui essayent de vivre de ce type de métier ? Est-ce que tu crois que ça peut avoir une influence tellement importante que tout à coup des gens qui avaient du mal à se financer par cette activité, est-ce que ça peut devenir là aussi un vrai métier ?
Écoute, je trouve ça j'en suis persuadé. J'ai aucun souci avec
grâce
ça, il y
ça,
en a
quoi,
qui en vivent. Ah oui, il y en a qui en vivent grâce à ça. Et si tu
non,
veux,
mais je veux dire
je
grâce
ça...
à ce changement
oui, grâce,
d'Amazon Prime.
Grâce à ce changement. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que même nous, on se dit aujourd'hui on est à peu près à 4500 personnes qui suivent la chaîne sur Twitch, ce qui est un chiffre honnête, hein, c'est pas non plus incroyable mais c'est honnête. Le pourcentage de gens qui ont Amazon Prime sur les 4000 et quelques qui nous suivent, je le connais pas. Je pense qu'il est élevé, puisque à chaque fois que on se met à streamer, on a plein de nouveaux subs, de gens qui reçoivent l'alerte, qui disent que la chaîne est en ligne, qui viennent nous voir et qui subent en fait à la chaîne. des fois même sans dire un mot et qui repartent. D'ailleurs, c'est très intéressant comme comportement, mais si tu veux, je pense sincèrement que des gens, des gens comme AlphaCast et tout ça qui ont une énorme communauté, parmi les gens qui le suivent, il y a énormément de gens qui sont Amazon Prime et donc Twitch Prime et donc vont le soutenir entre guillemets gratuitement. Je donne un exemple bête. Le mouvement qu'a fait Amazon là est top. On a des gens qui nous suivent, qui sont sub chez nous depuis plus d'un an. Donc, ils ont dépensé en gros 66€ ou un peu plus pour nous soutenir pendant un an. Alors que s'ils avaient été juste Amazon Prime, ils auraient payé 49€ et ils auraient pu nous soutenir tout autant. À la différence qu'ils ont en plus les frais de livraison offerts chez Amazon et tout le reste.
Bien sûr, c'est ça qui est fou.
C'est ça qui est complètement dingue. Et alors là où tu disais est-ce qu'on peut en faire un métier, je crois sincèrement qu'on peut. Et en plus, je trouve le modèle presque plus sain que le modèle de la publicité qu'on trouve sur YouTube ou du placement de produits qu'on trouve sur YouTube chez beaucoup de YouTubers, high-tech, pas que jeux vidéo d'ailleurs. Je trouve que c'est beaucoup plus sain. En gros, c'est un peu comme si toi, t'es abonné à un opérateur internet qui te dit tous les mois, t'as le droit de donner en gros une partie de l'argent que tu nous verses à du contenu sur le web. Ça pourrait être, tu vois, le Patreon de Patrick. Ça pourrait être
Le Patreon de Patrick,
Twitch,
par exemple. Regarde,
si demain Amazon rachetait Patreon et disait, vous êtes Amazon Premium, vous avez le droit de soutenir le projet que vous voulez sur Patreon. Exactement la même chose pour moi. Et donc là, je trouve que c'est que le mouvement qu'a fait Amazon, financièrement, je sais pas comment ils font, mais je trouve que
financièrement c'est très simple. Ça fait que leur offre Amazon Premium est tellement intéressante que ça fait que plein de gens s'abonnent et du coup ça fidélise les clients. Les gens vont aller sur Amazon plus que
En gros c'est du marketing. C'est une dépense marketing qui est transformée plus en espèce de don pour du contenu web que tu consommes. Et je trouve que c'est je sais pas si c'est vertueux ou si c'est bien ou tu vois, je dis juste que ça va aider des gens.
On peut critiquer Amazon pour ses pratiques diverses. On en parle beaucoup, mais
peut-être qu'il ferait mieux de payer en Twitch Prime leurs impôts, tu vois.
Non, c'est ça. Mais après, je veux dire, c'est un autre débat. Et bien sûr qu'on pourrait en parler et on en parle et on en a beaucoup parlé dans le Rendez-vous Tech notamment. Mais c'est effectivement un autre débat.
Ça va créer une nouvelle économie. Pour moi, jusqu'à présent, il y a la marge de gens qui vivaient de Twitch était minuscule. C'est un peu comme sur YouTube, tu sais, les gens qui vivent de leurs vidéos, ils sont pas très nombreux. Là, en fait, ça va permettre justement à pas mal de streamers de songer à ne vivre que de ça, quoi. Et nous, on est des petits streamers, tu vois, avec Geeking. Mais quand je vois des mecs comme AlphaCast ou d'autres qui ont énorme, je dis AlphaCast parce que je suis beaucoup sa chaîne, en fait.
Mais il est très très bien ce garçon.
Tout à fait. Mais tu vois, je me dis, il y a des gens qui sont peut-être à une limite. Tu vois, par exemple, qui avaient en sub, qui ont 15 000 personnes qui les suivent. J'en connais un streamer qui fait ça. Ils sont 15 000 à le suivre. Il avait en gros 200 ou 300 subs, ce qui était pas mal. Ça lui permettait en gros de sortir presque 1 000 € par mois. S'il a multiplié son chiffre par 3, comme nous on est en train de le faire, je suis désolé, mais là, il va pouvoir songer à vivre que de ça, quoi.
C'est un petit peu, effectivement, quand je me suis lancé sur Patreon avec le Rendez-vous Tech, c'était un petit peu cette même magie de se dire, mais il y a une communauté autour qui existe, qui a envie visiblement de soutenir, et tout à coup Patreon a rendu possible l'expression de ce soutien, et du jour au lendemain il y a un modèle d'affaires qui s'est créé. Et effectivement c'est un petit peu l'impression que ça donne. Tu parlais aussi d'une autre possibilité qui a été donnée par Amazon il y a quelques temps, c'est le fait de regarder des pubs volontairement, c'est ça ?
Ouais, alors en fait, Amazon, Twitch a lancé un nouveau moyen de financement qui sont les bits, enfin faire du cheering comme ils appellent. En gros, on achète des bits, c'est des espèces de crédits. Je donne un exemple, je crois que c'est 1,89$ les 100 bits. Vous achetez ça et ensuite dans la chatroom vous tapez cheer 100 par exemple et vous donnez ces 100 bits au streamer et cet argent en fait qui donc revient au streamer, c'est comme si vous aviez fait un don via PayPal, sauf qu'en fait ils ont internalisé le système et puis ils prennent le pourcentage que prenait PayPal à l'époque, donc c'est pas plus cher, mais voilà, et l'idée c'est que Ils se sont dit, ben, on va aller plus loin. Plutôt que les gens achètent des bits, on va leur proposer de regarder 30 secondes de pub pour obtenir 100 bits. Donc, en gros, vous voulez des bits pour soutenir un podcasteur, mais vous n'avez pas les moyens de les acheter, vous n'avez pas envie d'en acheter parce que bah, c'est de l'argent, hein, mine de rien, puis vous le soutenez déjà, peut-être. Ben, là, vous dites, bon, ben, je vais regarder volontairement une pub ou des pubs et je vais gagner des bits grâce à ça. Et ces bits-là, ensuite, je vais les reverser au streamer que j'aime bien, quoi.
Excuse-moi, suivi. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ces bits, en fait?
Alors, les bits, en fait, tu les donnes. En gros, c'est comme si tu faisais un don.
Oui, oui,
à
mais
un
qu'est-ce
streamer.
Qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait, le streamer, après?
Ah, ben, le streamer, en fait, lui, il les voit pas en bits, il les voit en argent. Un bit est égal à 0,08 centimes, tu vois. Enfin, je dis une bêtise, mais c'est de cet ordre-là.
Ouais. On se retient très, très fort de pas faire de blagues, hein, mais de goût douteux.
Non, on va pas faire zéro blague sur les bits que reçoivent les streamers. Mais voilà, il y a cette idée-là. Alors, bon, c'est pas nouveau, hein, cette idée de monnaie interne, de crédit, finalement. Simplement, la nouveauté, qui est, en fait, c'est en place depuis ce week-end, parce que j'ai reçu le mail, moi, ce week-end, qui dit, ben voilà, maintenant, les gens qui veulent des bits, vous pouvez aussi gagner de la pub pour obtenir des bits. C'est-à-dire comment on clique sur obtenir des bits, ils vous proposent soit de payer, soit de regarder une pub pour en avoir. Alors, c'est pas encore dispo en France, mais par contre, si vous êtes américain ou vous habitez aux États-Unis, vous pouvez le faire et vous pouvez donner à des streamers français. Ça, c'est pas interdit, hein. c'est pas géolocalisé. Aujourd'hui, c'est juste le fait de regarder de la pub qui, pour le moment, n'est disponible que aux États-Unis, Canada, je crois Angleterre. Il y a peut-être l'Allemagne, mais je suis pas sûr.
D'accord.
En gros, c'est plus les pays anglophones et je pense que c'est à cause de la régie publicitaire de Twitch qui doit avoir ouvert que dans ces pays-là, qui a pas dû signer de partenariat avec les annonceurs dans les autres pour le moment. C'est un test, mais a priori, ils aimeraient l'étendre à tout Twitch. Donc, les bits, en fait, au départ, même, c'était un test qui a été étendu à tout le monde. Donc, voilà.
Encore une
nouvelle
pierre
façon.
De plus à cet édifice qui est plutôt enthousiasmant pour ce monde dont nous venons, nous, quoi.
Bah, exactement. Et en plus, quand on voit que Twitch a rajouté plein de nouvelles choses aussi. Donc, par exemple, maintenant, ils essaient d'aller faire la concurrence à YouTube, puisqu'on a la possibilité d'uploader des vidéos sur Twitch.
Ils en avaient parlé il y a un moment, mais c'est maintenant
réactivé.
Ben, ça y est,
c'est fait. C'est disponible. Nous, on peut déjà le faire. Donc, plutôt que d'utiliser, par exemple, YouTube, bah, on peut se dire, bah, voilà, nos vidéos, on les met plus sur YouTube, on les met sur Twitch. Et voilà.
Je pense que dans le gaming, c'est un truc qui va se passer. Première étape. Alors, YouTube reste énorme pour le gaming et je pense qu'ils resteront énormes pour très longtemps. Mais YouTube Gaming n'a pas vraiment pris autant qu'on aurait pu l'espérer. En tout cas, ils ont certainement pas fait concurrence à Twitch et là, ça risque pas d'arriver avec ces nouveautés. Et en tout cas, à moyen terme, Twitch pourrait tout à fait devenir une destination privilégiée pour les vidéos préenregistrées aussi, ce qui est aujourd'hui l'apanage de YouTube, quoi.
Ah mais complètement, complètement. Et ils ont rajouté aussi des nouveaux badges aussi. Alors c'est des détails, mais c'est pour les gens qui sont seuls depuis longtemps.
Oui, là c'est un peu
longtemps.
Là, ouais. C'est pour fidéliser les gens, effectivement.
C'est pour fidéliser les gens. Vous avez des badges différents pour différencier les gens de la communauté. Bon, voilà.
Ce qui est pas mal.
C'est pas mal. Le HTML5 aussi qui a débarqué. Bon, il était déjà en test depuis longtemps, mais ils vont le généraliser maintenant.
Donc voilà, il y a plein d'autres petites choses. Et les autres trucs qui m'ont impressionné, c'était les chiffres qu'ils ont annoncés. Il y avait une moyenne de 600 000 spectateurs sur Twitch, avec un pic à 2 millions à un moment. Il y a 2,25 millions de streamers. C'est vraiment des chiffres qui donnent un petit peu le tournis. On vient faire concurrence à des gros... alors évidemment, c'est réparti, comme on dit, sur des millions de streamers, littéralement, il y a 16
Il faut voir aussi que la PlayStation, tu t'appuies sur un bouton et tu streams sur Twitch, quoi, la Xbox. Hein.
C'est ça.
Donc du coup, voilà, ça fait beaucoup de streamers.
Mais il y a quand même 17 000 partenaires, donc ça, c'est des gens sérieux.
Nous faisons partie.
Donc,
voilà.
Donc là, on voit qu'il y a vraiment une audience très sérieuse et ça me permet de faire la transition avec la deuxième partie de la discussion qui est sur l'e-sport et les raisons au-delà de la fidélisation des gens pour Amazon, des spectateurs de Twitch pour Amazon qui est en train d'arriver là. L'autre raison pour laquelle Amazon a acheté Twitch, à mon sens, c'est ce pari incroyable qu'ils font sur l'e-sport, avec notamment certains jeux qu'ils ont annoncés comme Breakaway. Je sais pas si t'as vu le gameplay, en gros, je schématise, c'est un mélange entre League of Legends, Overwatch et Rocket League. qui est hyper facile à regarder en e-sport pour les gens, même pour les gens qui ne connaissent pas l'e-sport. Et il y a en plus tout un tas de systèmes d'interaction avec le public, que ça soit avec des systèmes de paris, de monnaie en jeu, ou des systèmes de jeux avec les spectateurs.
Je pense que les bits vont bien servir à quelque chose. Hein. Ouais,
c'est ça. Et donc on peut même interagir avec le public, donc inviter les gens qui nous regardent sur Twitch à venir jouer avec nous ou contre nous, etc., etc. C'est vraiment un truc qui est très orienté e-sport et streaming. Et ça se réunit très bien avec les news selon lesquelles il y a différents gros acteurs du sport classique américain qui ont acheté des équipes d'e-sport, en l'occurrence Dignitas et Apex, qui sont des équipes très connues. Il y a Team Liquid qui a en gros été acquis par Dignitas et Apex, c'était l'équipe des 76ers, qui est une équipe de je sais plus ce que c'est d'ailleurs, américaine, baseball ou je sais plus, je suis sûr que quelqu'un me corrigera dans les commentaires. Et il y a un groupe d'hommes d'affaires du sport, dont Magic Johnson, que vous connaîtrez tous, et Peter Guber, Ted Leonsis, etc., qui sont des Ted Leonsis a plusieurs équipes à Washington, qui ont en gros racheté Team Liquid. On a entendu parler il y a quelques semaines et quelques mois déjà d'équipes de sport classiques. Je me souviens d'une équipe allemande qui avait racheté une équipe de foot allemande qui avait racheté une équipe d'e-sport. Là, on a Web Media qui a obtenu la licence de gestion de l'équipe PSG eSport et qui a racheté Bang Bang Management qui est un agent d'eSport de Bertrand Amard. Bref, il y a vraiment cette ébullition de l'e-sport dont on parle depuis peut-être, je dirais, un an et demi, quelque chose comme ça, qui est prêt à bouillir et à déborder du chaudron de l'e-sport un petit peu niche.
Ça va s'institutionnaliser, quoi.
Et gagner en popularité. Je crois que le pari d'Amazon sur Twitch, c'était pas juste le streaming, c'est vraiment l'e-sport. Alors, a posteriori, ça paraît évident. Évidemment, quoi. Mais là, on a la concrétisation avec tous ces rachats, etc. L'e-sport est vraiment en train de faire cette transition vers le grand public, j'ai l'impression.
Ah oui, complètement. Et en plus.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Plus, même à Twitch est en train vraiment de se diversifier. Nous, on l'a vu hein, depuis maintenant quelques, enfin ça va faire 2 ans hein, qu'on y est. On a vu Twitch aussi beaucoup changer. Parce que tu parles d'e-sport, tout ça, machin, mais on a vu aussi Twitch et sous l'impulsion d'Amazon se diversifier. Et tu vois, on parle d'événements en général, mais je verrais bien débarquer des événements autres que du jeu vidéo sur Twitch pour une raison simple, c'est qu'ils ont lancé quand même une catégorie cuisine, une catégorie aussi créative, donc où vous avez des gens qui font soit qui fabriquent du jeu vidéo, donc c'est intéressant, soit du dessin, soit de la sculpture, enfin il y a absolument de tout dessus.
Bah ça c'est des trucs y avait plein de gens qui utilisaient Twitch pour ça, voilà. Et donc ils se sont dit
il y a même
le
social eating hein. Ça c'est quand même le top du streaming.
Pour les gens qui savent pas, le social eating c'est les gens qui regardent des gens manger en fait.
Voilà, c'est ça. On l'a testé deux fois cet été où on a mangé dans le studio avec des gens qui nous regardaient et ils mangeaient en même temps que nous.
Ouais, c'était juste avec des potes finalement.
Ouais, voilà. Et c'est en plus c'était juste après une émission sur la cuisine où on a fait à manger en direct. Et donc on était dans la rubrique cooking et après on est passé dans la rubrique social eating pour manger donc ce qu'on avait cuisiné. Et ben écoute, il y avait plus de 100 personnes à chaque fois en direct qui nous regardaient manger ou qui nous regardaient faire à manger, c'était hallucinant. Et faut pas oublier que nous-mêmes nous faisons tous les commentaires de keynote Apple, Google et tout
ça.
Oui,
c'est vrai, oui, quand on
sur Twitch.
Ensemble.
La dernière keynote Apple en simultané, on est monté à 1200 et quelques personnes. Et au total, en nombre de viewers uniques, on a dépassé les 5000 viewers uniques. Tu vois, des gens qui sont venus, ouais. Et puis ensuite qui sont partis.
C'était pas que sur le jeu
vidéo.
Non,
non, voilà. Non, et c'est pas que du jeu vidéo, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, il y a des publics pour tout. Et Twitch est en train de justement se diversifier. Alors après, effectivement, ils savent d'où ils viennent et ils veulent pas décevoir la communauté justement en mettant de côté le jeu vidéo et l'e-sport et voilà, comme tu dis, l'e-sport est en train de gagner ses lettres de noblesse. Et en gros, je pense que ce que veut faire Amazon aussi, c'est pas se laisser voler ça par la télévision classique, parce qu'on sait qu'ESPN et tout ça diffuse.
Ouais, il y avait un championnat d'Overwatch sur voilà. C'était TBS, je crois, il y a une semaine.
Voilà. Et donc si tu veux, Amazon donc via Twitch se dit oh, on était là avant. Donc on va pas se laisser dépasser. Donc on va trouver des moyens de financer tout ça, donc pour que les gens restent. Et puis aussi on va trouver un moyen de rendre en gros de garder une espèce d'exclusivité là-dessus quoi.
Mais ouais, on est passé un petit peu rapidement sur la partie des équipes d'e-sport, des équipes de sport ouais. traditionnelles qui se mettent à racheter des équipes d'e-sport. Mais je crois que là, effectivement, accompagné par Twitch, c'est certain. Comme on disait, il y a une vraie, il y a un truc qui se passe quoi. Et on le sent, on en sentait les prémices et on en parlait depuis plusieurs mois, même depuis un an et demi, je dirais. Mais là, vraiment, on est passé d'une situation où l'animateur d'ESPN va dire « Ah, le jeu vidéo sur ESPN, jamais de la vie !» et où c'était quelque chose qui passait, quoi. C'était un truc qui semblait refléter le sentiment des journalistes de sport en général. Et ça, c'était ouais. il y a un an et demi. Je me souviens de cet événement, c'était pour Heroes of the Dorm sur ESPN 2, il y a un an et demi. À aujourd'hui, des équipes de sport qui rachètent de l'e-sport. Alors, pourquoi ? Certainement parce qu'ils voient que le public est plus jeune, qu'ils veulent les fidéliser, qu'ils se disent que l'argent est en train de se diviser entre sport normal et e-sport et que c'est des milieux connexes. Donc, ils ramènent un petit peu ce nouveau business dans leur portfolio. Mais vraiment, il y a eu entre il y a un an et demi ou deux ans où il y avait un regard vraiment méprisant qui était jeté sur
l'e-sport. Quand ils ont vu les stades remplis.
C'est ça, voilà. Et dans le milieu de l'e-sport, on le sait, nous, depuis longtemps, mais il y a quand même une énorme différence entre un monde de l'e-sport qui est une sous-catégorie du monde du jeu vidéo, parce que c'était ça, hein, c'était une sous-catégorie hyper active et hyper convaincue, mais qui était dans son univers, et un e-sport qui commence à gagner des catégories beaucoup plus larges du jeu vidéo en général. Moi, j'ai regardé plus d'e-sport cette dernière année que j'en ai jamais regardé de toute ma vie, et au-delà de l'e-sport du jeu vidéo, et pardon, excusez-moi, je pense que des trucs comme Breakaway et des jeux de ce type-là qui sont plus faciles à regarder peut-être vont aider à cette démocratisation. En tout cas, les mouvements sont clairement initiés, quoi. Donc,
oui, oui. Et puis, il faut pas oublier un truc, c'est que notre génération ou la génération, enfin peut-être pas la tienne, Patrick, puisque bon, moi je fais partie de la génération d'après. Hein,
c'est ça, on est d'accord.
Mais justement, regarde moins de sport à la télévision et regarde beaucoup plus d'e-sport. Et les chaînes de télé sont pas dupes et se disent, bah si c'est ce qu'ils veulent voir, on va leur montrer, tu vois.
Bien sûr, bien sûr.
Donc
oui,
voilà, il y a aussi ça. Et il me tarde de voir Nelson Monfort commenter du LOL. ça peut être très très drôle. Et oui, la Décari part en jungle, mais que fait-il? Et je pense que ça pourrait être très très drôle.
Ça pourrait effectivement être marrant. Mais d'ailleurs, tu sais, on plaisante, mais ça pourrait vraiment être un moyen pour les chaînes classiques d'intéresser ce nouveau public. Tu mets effectivement des commentateurs d'e-sport reconnus avec un Nelson Monfort dans le studio et qui leur alors ils déconnent, ils plaisantent, ils machin et en même temps ils expliquent un petit peu ce qui se passe à Nelson Monfort, tu vois, et voient le truc.
Oui, comme ça c'est... mais voilà.
Ça serait une émission géniale, ça serait magnifique. Donc bon,
j'appelle Nelson.
Allez, vas-y, on y va, on organise ça. Bon, on a beaucoup parlé donc de réalité virtuelle et de Twitch Prime et d'Amazon et d'e-sport. C'était nos deux ou deux et demi gros sujets de l'émission. Passons maintenant au truc un petit peu plus concret, des jeux, des vrais jeux auxquels on peut jouer aujourd'hui. Et en l'occurrence, on a un petit peu évoqué Forza Horizon 3 à l'épisode précédent. Et comme je le disais à l'épisode précédent, moi c'est un jeu que je suis pas trop parce que c'est un petit peu bon Forza, enfin c'est je suis plus trop dans les jeux de voiture et je crois que l'enthousiasme n'a jamais dépassé depuis on va dire 10 ans la population, le public des jeux de voiture spécifiquement, mais j'entends tellement parler en bien de Forza Horizon 3 que je me suis dit que ça pourrait valoir le coup de revenir dessus un petit peu plus longuement et d'avoir des impressions précises parce que ça a l'air d'être une vraie réussite et Cédric, toi, je crois que tu es assez convaincu. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Je
suis complètement fan de. Bon, j'étais déjà fan de Forza Horizon, hein, mais premier du nom et du second. Bah, là, la grosse nouveauté, bon, ça se passe en Australie, hein, ça c'est pas nouveau. Je vais pas refaire tout le pitch du jeu. La vraie grosse nouveauté, c'est les environnements qui sont juste fabuleux. Le jeu est magnifique et en plus, le jeu est incroyablement optimisé. En tout cas sur Xbox, hein, parce que sur PC, a priori, il y a quand même encore quelques petites latences. Mais sur Xbox One, le jeu est incroyable. C'est beau. Le ciel est magnifique. Les effets de pluie sont incroyables. Non, après, bon. Je vous avoue que c'est Forza Horizon, ça plaît pas mal aux jeux qui ont aux gamers qui aiment la collectionnite. Tu sais, les gens qui ont tendance plutôt à se lancer dans essayer d'obtenir toutes les voitures du jeu, essayer d'obtenir certaines choses. Enfin voilà, le principe du jeu, c'est quand même de débloquer des événements en Australie et d'aller participer à des courses et de terminer premier. C'est ni plus ni
mais
moins
pourquoi,
que ça. Hein.
Pourquoi est-ce que ça plaît tellement, tous ceux qui ont joué m'ont dit, ah ouais, non, mais celui-là, vraiment, il est spécial.
T'as une sensation
quoi.
De liberté incroyable.
Plus que dans le 2 ou dans le 1.
Ah ouais, mais la carte est encore plus grande. Je crois que ça fait 3 ou 4 fois la surface du premier. Il faut énormément de temps pour aller d'un point à l'autre de la carte. Donc t'as une vraie sensation de traverser une partie de l'Australie. Je sais pas comment expliquer ça, mais t'as la sensation d'immensité du truc, quoi. Ça me fait beaucoup penser à The Crew de ce côté-là, pour le côté justement traversé incroyable d'un pays entier, tu vois.
Mais alors tiens, justement, excuse-moi, je t'arrête parce que The Crew, on a l'impression que c'était un petit peu la même promesse. T'avais les États-Unis modélisés, ouais. Bon, tu vois, genre en entier,
pas
bien sûr.
Fait
voilà. Et cette idée que tu peux aller faire des événements un petit peu partout, retrouver tes amis et jouer avec eux, tu vois, ce multiplayer, ce monde ouvert, multijoueur, machin. Et j'ai presque l'impression que c'était aussi la promesse de Forza 2 et que...
Ah, mais... pas tout à fait.
Non, c'est ouais, plus ça, pas, mais, y a... mais du coup, pourquoi ça marche avec Forza 3, quoi? J'arrive pas à mettre mon doigt sur ce que... peut-être qu'il faudrait que je l'achète et que j'y joue, mais...
Le gameplay est top, c'est-à-dire que plus tu vas progresser, plus tu vas t'orienter vers la simulation. Il est hyper accessible dès le départ, parce que c'est très arcade. Et au fur et à mesure, ben, quand tu vas commencer à toucher au réglage de la voiture, à monter en XP, à avoir des compétitions un peu plus élevées, les réglages peuvent faire la différence, ou le pilotage, du moins, permet de faire la différence, alors que dans les compétitions début, t'as tendance à tout gagner facilement. Et puis voilà. Et puis il y a ce côté, il y a, je sais pas comment expliquer ça, mais ils ont instauré un côté, tu t'ennuies jamais. T'as toujours un truc à faire. T'as des défis dans tous les sens. Il se passe toujours un truc. T'as une radio qui te parle sans arrêt. La bande son est juste fantastique. Et quand tu, par exemple, t'as des petits événements qui pop du genre aller chercher une voiture dans une grange. Bon, c'était classique dans les autres aussi, mais tu te vois mettre ton GPS, partir. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. T'as une vraie sensation de, j'allais pas dire de ouais, je me sens dans le jeu en fait. Il y a une vraie sensation d'immersion que tu trouves pas forcément dans d'autres jeux. Je sais pas comment expliquer ça, mais le jeu est pas froid. T'as la radio qui parle et tu te surprends même à écouter ce que dit le présentateur, tu vois. Alors que dans
un
les
petit
faits,
peu comme dans GTA, c'est des trucs intéressants,
voilà.
Marrants. Ouais.
Ben, voilà, oui, parce que par exemple, t'as des infos sur un festival qui va ouvrir bientôt ou sur justement les infos de grange. C'est une radio qui t'appelle et qui te dit, ah tiens, on a trouvé une grange machin. Tu dois aussi
les
gagner
granges?
Des fans.
Comment ça, les granges?
des granges, c'est là où tu as des voitures cachées, des voitures un peu rares.
Ah,
et tu dois retrouver une grange dans le bush, tu vois, australien. Il y a une grange planquée et toi, tu dois aller la chercher pour obtenir la voiture qui est à l'intérieur de cette grange-là. Il y a plein de défis, il y a un côté je sais pas comment expliquer ça, mais
non mais tu dis ça depuis tout à l'heure, mais je trouve que tu l'expliques pas mal en fait.
Il y a vraiment toujours un truc à faire, que ce soit battre un record de vitesse sur une ligne droite, se faire flasher pour faire mieux que son pote, tu vois, enfin voilà. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi les fameux drive-atar, c'est-à-dire que quand tu joues les mecs contre qui tu joues en fait portent les noms de tes potes Xbox Live.
Ouais, c'est modélisations de
voilà. Et du coup t'as presque la sensation.
Excuse-moi, j'explique pour les gens qui savent pas ce que sont les bien nommés drive-atar. C'est des modélisations de vos amis Xbox Live de leur manière de conduire qui est analysée par le jeu et qui se retrouve dans votre jeu même quand ils sont pas là en fait. Donc ça existe depuis un moment dans la série, mais c'est vrai que c'est un aspect qui est marrant du truc quoi.
Eh oui. Donc voilà, donc d'accord. Moi franchement si vous êtes en manque de jeux de voiture, c'est un excellent choix. Et il y en a pour tous les goûts. Et ce qui est bien, c'est que t'as pas que un type de conduite. Tu vois, c'est pas que du circuit ou que de la piste. Il y a un peu de tout. Il y a du buggy, il y a plein de trucs. Et du coup, t'as vraiment toujours un truc. Pour moi, en fait, Forza Horizon, c'est un peu l'esprit à la Top Gear pour les fans de bagnole et les fans de Top Gear BBC. Hein, je parle pas France. C'est un peu cet esprit-là. De faire n'importe quoi avec des voitures, de s'amuser, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est super bien modélisé. Pour les fans de voitures, c'est un jeu absolument à voir. Et pour les gens qui cherchent un bon jeu de course, c'est aussi un jeu à avoir, quoi.
D'accord. Et pour les gens qui ont, je parle de moi, hein, pour les gens qui ont aimé les jeux de voiture il y a très longtemps, genre à l'époque de Gran Turismo 1, 2, tout ça, et qui aimaient Need for Speed Underground, Burnout Paradise,
alors c'était Need for Speed Underground, go.
D'accord. De l'époque, hein, moi je parle de
début 2000. Oui, non, mais c'est, tu vas voir, c'est très bon.
D'accord. Bon, écoute, merci beaucoup pour ces impressions renouvelées sur Forza Horizon 3.
Ah, tiens, on peut parler du prix peut-être, hein, parce que c'est un jeu, c'est les fameux jeux, tu sais, estampillés Xbox One, enfin Xbox Everywhere, hein, donc PC et Xbox One. Mm-hmm. À une nuance près, c'est que si vous le voulez partout, il faut l'acheter en démat. Si vous achetez la version boîte Xbox One qui vaut 49€, je crois, vous pouvez pas y jouer sur PC. Par contre, si vous l'achetez en démat à 60€, vous pouvez y jouer sur PC.
D'accord. Peut-être qu'il est trouvable sur PC moins cher, non? Si tu l'achètes sur PC, est-ce que tu l'as en démat sur
PC en utilisant c'est sur le store Microsoft, donc tu sais, c'est la fameuse manipulation d'aller habiter à Hong Kong ou je ne sais où.
Ah, ça non, je connaissais pas moi.
Ok, on en parlera hors antenne. Si
ok. D'accord. Donc voilà, n'oubliez pas de l'acheter si vous le voulez sur PC et Xbox. N'oubliez pas de l'acheter en dématérialisé. Moi j'ai aussi, je vous avais promis que je vous donnerais mes impressions sur Rise of Iron, l'extension de Destiny, et j'ai enfin, je suis comme je le disais revenu en Finlande après un long moment en France et avant de retourner un long moment en France, et donc j'ai ma PlayStation 4 à côté, ce qui me permettra de tester le PlayStation VR, mais j'ai aussi Destiny et j'ai donc testé Rise of Iron et comment dire, j'ai fait que la campagne, donc j'ai pas encore testé. Enfin, si j'ai fait un petit peu après, j'ai fait quelques missions de comment dire en patrouille sur la nouvelle zone. La campagne m'a pris peut-être 2h30, ce qui est, j'ai l'impression de mon souvenir, moins long que celle de The Taken King, mais surtout la campagne, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle est pas marquante. Celle de The Taken King était marrante. J'avais vraiment ri avec l'écriture et le jeu d'acteur de Nathan Fillion qui était très très bon.
Ah oui.
Et je l'avais trouvé beaucoup plus excitante. Enfin, il y avait des enjeux qui m'avaient pris plus, ou en tout cas c'est mon souvenir. Peut-être que c'est un petit peu, je m'en souviens pas très bien, mais en tout cas c'est mon souvenir. Et puis la nouvelle zone est pas du tout aussi mémorable que le Dreadnought, je sais plus comment il s'appelait en français, mais le vaisseau qui était la nouvelle zone de The Taken King. Là, on a l'impression d'être sur Terre, parce qu'on est sur Terre, hein, dans la zone du cosmodrome. Alors c'est un petit peu différent, il y a les petits machins robotiques qui sont un petit peu partout, les ennemis sont moins marquants. Au final, elle vaut 30 euros. Et on en a pour certainement 30 euros. Il y a un petit raid qui visiblement est très bon, mais qui n'a que 3 ennemis. Il y a que une nouvelle strike, un nouveau donjon. Donc, c'est vraiment ce dont on avait l'impression, à mon sens, une extension qui est faite pour ceux qui jouent tous les jours et qui avaient besoin de nouveautés. Mais c'est certes, c'est même pas une extension pour ramener ceux qui sont qui sont partis après The Taken King au bout de plus de quelques mois. À mon sens, si vous avez pas un besoin pressant de jouer à Destiny, pas besoin d'acheter Rise of Iron, vous attendez Destiny 2 et on espère qu'ils feront un truc qui sera vraiment une grosse évolution du jeu et du système.
C'est une extension digne d'un season pass quoi en fait.
Voilà, c'est un petit peu ça, un petit peu plus peut-être, mais même pas. Je suis même pas convaincu en fait. C'est une voilà, c'est un petit truc. Il y a effectivement un nouveau raid, une nouvelle zone, machin. Mais moi j'ai été. C'est pas que c'est mauvais. Hein, encore une fois, je dirais pas que c'est mauvais. Mais c'est The Taken King sans l'étincelle.
Sans le King.
Sans ouais sans le King. Non mais t'as raison. Il y a même pas le King parce que dans The Taken King il y avait Crota le bien nommé. Je crois qu'il s'appelait. Je sais plus comment il s'appelait en français. Parce qu'il l'avait pas appelé Crota forcément, mais je sais plus.
Bizarrement.
Ouais, bizarrement. Corta, Torca, ils avaient joué.
Ouais,
sur
bon.
Donc voilà. Moi, je ne recommande carrément pas Rise of Iron à mon sens. Pour si vous êtes déjà fan, si vous l'avez déjà, c'est parce que vous le voulez. Si vous l'avez pas encore, c'est que vous le voulez pas assez et que à mon sens, c'est pas la peine
d'insister.
Voilà, c'est ça, exactement. Il y a aussi la démo pour Dragon Quest Builders qui est disponible sur PlayStation 4 et PlayStation Vita. On sait que Dragon Quest Builders surfe sur la vague de popularité absolument folle de Minecraft au Japon et c'est pour ça qu'il est sur PlayStation Vita parce que Minecraft est sur PlayStation Vita et c'est ce qui en vend encore aujourd'hui et on a enfin l'occasion de l'essayer. J'ai testé la démo. À mon sens, ça, si vous avez, en fait, c'est Minecraft en un peu plus dirigiste. J'ai plus joué à Minecraft depuis longtemps, peut-être qu'il y a un mode campagne qui est plus dirigiste aujourd'hui. Mais l'ambiance Dragon Quest est vraiment sympa, c'est il y a un petit peu d'humour aussi, c'est pas mal pour les enfants, ça vous prend vraiment par la main. Moi j'ai trouvé ça marrant. Je dis pas que c'est le jeu de auquel je vais jouer, même certainement pas, mais c'est mignon. Si vous aimez bien Minecraft mais que vous vous sentiez un petit peu perdu, peut-être tester ou même jouer avec vos enfants, tu vois, tu peux en parler de Noël. C'est peut-être le truc auquel jouer avec ses enfants pour
Tu voulais être sûr de perdre vos enfants et de plus jamais les revoir.
C'est ça. Donc voilà, un truc parfait pour jouer avec les petits et les petites, je crois. Donc voilà pour Dragon Quest Builder. Et est-ce que t'as entendu parler de Virginia?
J'en ai entendu parler, oui.
Ouais, bah à vrai dire, c'est difficile de ne pas en entendre parler. C'est un jeu indé dont tout le monde a parlé cette semaine. Enfin, tout le monde a parlé. J'en ai autant entendu parler par des gens qui disaient « Ouais, c'est super » que par des gens qui disaient «
C'est nul ».
Non, c'est pas ça. Que par des gens qui disaient « Oh, mais putain, comment ça se fait que toute la presse n'en parle pas ? C'est un scandale, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on parle que des triple A ? Voilà, des jeux comme Virginia, c'est trop, trop fort, machin. » Et vraiment, enfin, je veux dire, il y a des gens, il faut qu'ils prennent leur Temesta le matin, quoi. C'est effectivement, c'est un jeu indé qui a l'air intéressant. J'ai fait que la démo, hein, donc peut-être que quand tu fais le jeu complet, c'est de la folie, mais de la démo qui est censée donner une impression du jeu, il y a des trucs intéressants. C'est un petit peu Firewatch, que celui-là je l'ai fait en entier. J'ai adoré. Alors, pour vous situer où je me place, pour ceux qui savent pas, j'ai adoré Gone Home, qui était un petit peu le premier de ce qu'on appelle ce genre de jeu qu'on appelle Walking Simulator, où c'est plus très très narratif, il y a très peu d'éléments de gameplay et c'est plus on avance, on clique quelque part et on suit l'histoire qui se déroule. Voilà. Et j'en ai fait plusieurs depuis. Aucun ne m'a convaincu autant que Gone Home, que j'avais trouvé éblouissant. Firewatch m'a un petit peu déçu même. J'en avais essayé. Ouais, un petit peu. Enfin, comment dire.
Je me tâtais pour me lancer dedans et.
Bah écoute, il m'a déçu parce que j'ai trouvé que la fin était en queue de poisson et du coup ça salissait un petit peu tout le reste de l'expérience, tu vois. Mais narrativement, je comprends, tu vois, c'est vraiment un jeu d'auteur et j'ai l'impression que Virginia, c'est un petit peu la même chose. Ils font des trucs intéressants. Le style graphique, c'est vraiment ça rappelle énormément Firewatch. Ils font des trucs intéressants. dans ce sens, c'est presque au niveau cinématographique, il y a des transitions, des cuts entre les scènes qui n'ont jamais été faites dans le jeu vidéo, en fait. Tu finis une scène et ça coupe et t'es dit immédiatement dans une autre. Il y a des transitions et puis à la fin de la vidéo, de la démo, ça part un petit peu dans le psychédélique, c'est un rêve, mais qu'est-ce qu'un rêve, qu'est-ce que ça veut dire, machin. Et du coup, je me suis dit, ouais, j'ai peut-être pas envie de encore payer pour un truc qui est une expérience d'auteur qui ne dit rien. Enfin, pas qui dit rien, mais faut être dans ce trip. Voilà, c'est un truc où tu dis, il faut vraiment...
Il faut y jouer avec Wiz Khalifa.
C'est quoi Wiz Khalifa ?
Un rappeur américain. Non, mais parce que tu sais, il y a eu un nouvel épisode de Clueless Gamer avec... j'ai oublié son nom.
Conan O'Brien.
Ouais, Conan O'Brien, ouais. Où il joue à Gears of War 4 et en fait il y a Wiz Khalifa qui est avec lui qui est en train de fumer un joint.
D'accord.
En même temps et ils sont complètement défoncés pendant qu'ils jouent, donc je me dis peut-être que pour Virginia il faut jouer avec Wiz Khalifa.
Ouais, bah peut-être. Écoute, effectivement ça pourrait agrémenter certaines des scènes qui sont un petit peu planantes, on va dire.
Parfait.
Avec des, enfin, et il y a des moments un petit peu, enfin bref. Je suis sûr que c'est un jeu intéressant. Encore une fois, bon, je devrais peut-être même pas en parler, j'ai fait que la démo, mais c'est avec l'expérience des jeux que j'ai fait précédemment et les trucs que j'en ai entendus, ma décision à moi, c'est de faire la démo pour voir si je vais l'acheter.
D'accord.
C'est à mon sens une décision
légitime.
C'est fou
légitime, ça, les gens parlent que de No Man's Sky alors qu'il y a Virginia.
Non mais à la limite, tu vois, No Man's Sky c'est aussi un truc d'auteur.
Non mais bien sûr.
je comprends pas du tout cet argument comme quoi il ne faudrait parler que de Virginia. Enfin, il faudrait absolument parler que de Virginia parce que c'est un truc d'auteur qui fait genre de la recherche. Je comprends et c'est pas vrai. On en a parlé. Enfin, moi j'en ai entendu parler. Peut-être parce que je suis la presse anglophone aussi.
La bonne presse. Mais...
non, mais même pas vrai. Enfin, bref, voilà. Virginia, à mon sens, ne vaut pas tout ce tintouin, quoi. C'est pas mon impression. Si vous avez fini le jeu et que c'est le plus beau truc que vous avez fait de votre vie, venez me taper dessus dans les commentaires. Je serais très curieux
de
savoir pourquoi.
Venez essayer de convaincre Patrick.
Voilà. Et si vous voulez essayer Pokémon Sun and Moon, il y aura une démo le 18 octobre avec la sortie du jeu. Donc vous pourrez y jouer sur votre 3DS, la ressortir du placard à cette occasion. Tu évoquais Gears of War 4 qui sort là très très bientôt. Il est même pas déjà sorti, je sais même
plus.
Ça y
est, oui, il est dispo.
Oui, il est dispo. Alors les impressions un petit peu conformes à celles qu'on avait eues il y a à l'E3, c'est dans la droite lignée de Gears of War. Ça réinvente pas vraiment la formule. Il y a des éléments de gameplay un petit peu différents, mais je sais pas si toi t'es fan du truc ou.
Ah, je suis fan. J'ai fait le 1, 2, 3. Je les ai finis en coop, recommencé la version.
D'accord. Alors tu t'es jeté sur le 4
en stream d'ailleurs. Eh bien non, je me suis pas encore jeté sur le 4, mais je vais le faire. d'ailleurs, on va le streamer nous. Cette semaine sur la chaîne Twitch. En fait, surtout, le jeu est incroyable sur PC.
Ah oui, plus beau.
Oh
tu
là
veux
là.
Dire.
Ah mais 60 FPS constant. Enfin, il est en ultra, magnifique. Enfin, je.
Plus beau que sur Xbox One.
Ah bah oui, plus beau que sur Xbox One, ouais. Ah
d'accord.
Oui. Il y a pas photo même. Et du coup, je me dis ah mais. Quelle version je vais prendre ?
Bah, tu prends la version dématérialisée pour avoir les
ouais,
deux, non ? C'est
ouais,
pas le même
mais
deal.
Ouais, mais après, le problème de la version dématérialisée, enfin, si je veux la version PC, de toute façon, j'ai pas le choix, mais si je prends la version Xbox One, je peux l'avoir beaucoup moins cher. Donc, tu vois, je suis un gamer raisonnable, surtout que Noël approche et qu'il y a énormément de jeux qui sortent. Donc voilà, mais non, le jeu est incroyable, incroyablement beau. Enfin, on retrouve tout. Enfin, si vous avez aimé les Gears, vous êtes obligé d'acheter ce jeu, quoi. C'est obligatoire. Vous n'allez pas être déçu.
Que... Ouais, c'est
vous
n'allez
pas être déçu. Voilà.
Bah, tu sais pas, tu n'y as pas joué encore.
Et doucement. J'ai vu des gens y jouer. Et de ce que j'ai vu, sur Twitch, enfin ça m'a tout de suite donné envie de plonger dedans.
Ça vient taquiner ta fibre. Ah non, mais Gears of War,
tout de suite t'as envie de prendre ta manette, tu te vois appuyer sur les boutons de ta manette, tu vois.
D'accord.
Donc voilà, Hugues là dans l'équipe et il nous dit que le jeu est incroyable quoi. Donc,
bon bah écoute, tu viendras nous
je viendrai vous en reparler si vous voulez. Ouais.
Ce qu'il en est de Gears of War 4. Encore taquiner les fibres du passé. Est-ce que tu as vu le trailer de Knights of the Eternal Throne de The Old Republic? C'est la prochaine extension de The Old Republic qui sort le 2 décembre. Alors pour ceux qui se souviennent pas, c'est un MMORPG. Peut-être celui qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans la grande guerre des MMORPG
tiré de Star Wars.
Oui, c'est celui-là. Oui. Non, mais tu sais, il y a eu quelques années avec la popularité de World of Warcraft où il y avait un MMO tous les 6 mois, tu vois.
Oui, oui. Je crois que il y avait toujours le World of Warcraft killer. Donc.
C'est ça. Et The Old Republic, c'est finalement celui qui est resté, je crois, le plus populaire et le plus réussi pour différentes raisons.
Il est encore là. Mais...
ouais, il y en a. Pas beaucoup qui sont encore là, c'est vrai. Et donc, t'as vu ce trailer qui est incroyable. Alors, c'est du pré-calculé, hein, c'est un film.
Bien sûr, mais à chaque fois, ils ont toujours eu des cinématiques incroyables, j'allais dire comme chez Blizzard, mais c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons aussi du succès, c'est qu'ils appliquent finalement des recettes assez proches. Et ouais, la vidéo est incroyable. Mais déjà, la précédente était folle. Encore une fois, la qualité de production de ces vidéos est ouf, et puis surtout ça te donne envie quoi.
Ah ouais, non mais là j'ai vu je vais pas vous la gâcher hein. Allez la regarder, c'est le trailer de Knights of the Eternal Throne. Ça donne, mais moi je me suis dit bon bah écoute, en plus il est free to play en ce moment j'imagine.
Oui, il est toujours free to play. Ouais. Alors après par contre peut-être pour avoir la dernière extension non il faudra payer.
Certainement il faut l'acheter oui mais je me suis dit ah mais du coup j'aimerais bien peut-être y rejeter un coup d'œil à The Old Republic quoi.
Moi j'y avais joué justement quand il était passé en free to play à l'époque. J'y ai joué un petit peu, mais le MMO, je t'avoue que c'est pas mon truc. Donc, voilà. Mais j'ai joué un petit peu quand même, et j'ai trouvé que ce MMO-là était différent des autres.
Déjà, ne serait-ce que parce que
il y a quasiment, quasiment tous les dialogues sont enregistrés d'ailleurs. Donc, du coup, ça te donne une sensation presque de jouer à Knights of the Old Republic en solo, tu vois.
C'est ça, oui.
C'est simplement que tu te retrouves toujours à ramener 13 queues de 12 oreilles de Jar Jar Binks et tu vois des trucs comme ça. Et donc à la fin tu te dis bon ok j'en ai un peu marre d'aller chercher. Enfin tu vois ces quêtes de farming là qui sont un peu chiantes et qui moi me saoulent assez vite en fait. Mais sinon pour le reste t'as vraiment l'impression de jouer à un jeu solo quoi. C'est top.
Bah, c'est effectivement enfin sur
un jeu solo pour du Star Wars.
Ouais bah c'est un jeu bah c'est un petit peu les MMO aujourd'hui c'est Alone Together quoi mais il y a tu fais ta progression tout seul et puis à haut niveau t'as les donjons les machins les trucs mais vraiment ce trailer moi ça m'a on parlait de chatouiller un petit peu nos tendances nostalgiques. Là, c'était vraiment hyper efficace quoi. Donc bon, peut-être que j'irai jeter un coup d'œil à un moment, le réinstaller, on verra. Passage free to play, tiens, bah Battleborn est sans doute en train de devenir free to play. On se souvient du ratage attristant de la sortie de Battleborn finalement.
Ouais. J'adore Gearbox, mais là.
Bah moi aussi, je trouve que Gearbox a vraiment. Enfin bref, bon, on en a déjà parlé. Si vous ne l'avez pas acheté, contrairement à moi, je l'ai acheté, Enfin bon, bref.
Tu l'as regretté.
Bah oui, un petit peu. Battleborn
en plus, il est sorti en même temps qu'Overwatch, donc bon.
Ouais, mais justement, tu sais, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant, une approche différente, mais vraiment, c'était le frontal Bon, bref, on va pas refaire la sortie de Battleborn. Si vous l'avez pas acheté, vous pourrez peut-être l'essayer dans pas longtemps en free-to-play. Et figurez-vous que Paladins, qui était un autre concurrent, enfin un autre de ces jeux qui sont sortis un petit peu en même temps, est disponible en free-to-play sur... en bêta, c'est un free-to-play de toute façon, sur PlayStation 4 et Xbox One. Donc, si vous voulez tester Paladins, qui là aussi, moi je l'avais joué en alpha il y a très longtemps, il m'avait pas convaincu du tout, peut-être qu'il a évolué depuis... vous pouvez le tester aussi. On a beaucoup de choses à acheter et à dépenser, mais je suis toujours de l'avis que entre les démos et les free-to-play, il y a beaucoup de choses à faire et vraiment moyen de s'occuper. C'est vrai. Est-ce que tu étais un fan de Beyond Good and Evil, toi?
Ah, ben oui.
Ouais. Alors, il y a Beyond Good and Evil 2 qui est enfin confirmé que le développement a repris, visiblement Ubisoft, pour qui d'ailleurs les choses se sont pas aussi mal passées qu'on aurait pu le craindre pendant l'assemblée des actionnaires.
Tout
tiens, il y a pas eu de mouvement agressif de Bolloré et pour le moment Ubisoft et les frères Guillemot tiennent la barque. Donc c'était un gros événement il y a quelques semaines, cette assemblée des actionnaires. Et donc pour le moment, ils sont encore en place, les Guillemot, et donc ils ont confirmé la reprise du développement de Beyond Good and Evil 2, qui est un jeu vraiment une autre arlésienne, et Beyond Good
Half-Life
and Evil
3,
qui
hein.
est un culte. Non mais c'est ça. Pourquoi moi je l'ai raté, Beyond Good and Evil, je l'ai pas. J'ai pas joué à l'époque où il est sorti et j'en entends parler avec, enfin j'entends les gens en parler avec des larmes dans les yeux depuis des années. Pourquoi est-ce qu'il était aussi bien? Pourquoi est-ce que les gens en gardent un tel souvenir et attendent le 2 avec autant d'impatience?
Parce que je pense qu'à l'époque, il était différent de toute la production vidéoludique. Et du coup, il a marqué les joueurs.
Quoi? Qu'est-ce qu'il amenait?
Déjà, les personnages étaient sympathiques, mais c'est surtout la face, le gameplay, je sais pas comment expliquer ça. Il y avait un univers surtout, un nouvel univers, et c'était... si mes souvenirs sont bons, c'était en quelle année? Je dis pas de bêtises, ça devait être 2002, 2003 ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Ou non, peut-être avant même.
C'était pas la première Xbox? Attends, je vais vérifier.
Attends.
La puissance d'Internet.
Google. Voilà. Google est mon ami.
2003, très bien, ouais.
Ouais, tu vois, c'est ça, 2003. Ouais, j'étais pas loin, tu vois.
Ouais, c'était l'époque de la première Xbox avec la PlayStation 2, c'est bien ça.
Voilà, et donc je pense que ça a marqué une génération de joueurs parce que c'était différent des productions de l'époque. Si tu veux, le gameplay.
C'était quoi? C'est dans la narration.
C'était de l'action aventure. Il y avait aussi de l'infiltration. Il y avait aussi un peu de course. Il y avait aussi de la plateforme. Enfin, ça aurait pu faire penser à d'autres jeux. Alors, si je devais le comparer, ça serait un espèce de mix entre Ratchet & Clank et Metal Gear, tu vois.
Ratchet & Clank et Metal Gear.
Ouais.
D'accord.
Tu vois le grand écart?
Ouais, effectivement.
Ouais, et il y a vraiment des phases comme ça. Moi, c'est l'infiltration m'avait beaucoup marqué, justement dans ces jeux-là, où ça faisait partie, voilà, des meilleures infiltrations que j'ai pu faire. Il y avait des choses intelligentes dans le gameplay, des adversaires qui avaient des points faibles complètement différents et qui changeaient la façon d'appréhender un niveau. Je sais pas, j'ai du mal à décrire l'expérience, mais voilà, ça faisait partie de ces... Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, hein, donc du coup, c'est vraiment sur des souvenirs, tu vois, que je t'en parle. Mais moi, ça me faisait vraiment penser à Prince of Persia ou ce genre de truc, tu vois. C'est devenu, c'était différent, tu vois, de tous les. À cette époque-là, on avait beaucoup de jeux de sport, bon, comme toujours, comme aujourd'hui, mais finalement, il y avait peu d'univers originaux qui débarquaient de nulle part, qu'on attendait pas.
Tu sentais la créativité, c'était.
Et voilà, tu sentais
un projet porté par Michel Ancel, qui était
exactement.
Un truc d'auteur, quoi. C'est marrant que tu parles de Metal Gear, parce qu'effectivement, le nom de Michel Ancel est 100% associé à Beyond Good and Evil, et tu sens son intention artistique, sans doute, d'après ce que je comprends, autant que derrière Metal Gear, tu sens Kojima. Et son
exactement.
Intention.
Ben, c'est exactement ça. Et en fait, c'était un univers complet et cohérent, en fait. Et si tu veux, ils ont pas débarqué avec un truc où, par exemple, tout est centré que sur le gameplay et finalement, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien autour. Là, au contraire, il y avait une histoire, tu te laissais emporter par l'histoire, le gameplay était top. il y a une version remasterisée, je crois, HD qui est sortie, et si tu veux t'y mettre, tu devrais le faire. Nous, par exemple, dans l'équipe, on a Audrey qui est absolument fan de ce jeu. C'est son jeu préféré de tous les temps, tu vois.
D'accord.
Donc ça te montre qu'il y a des gens qui peuvent avoir ce type de jeu comme jeu préféré de tous les temps.
Non, mais je pense qu'il y en a beaucoup même, hein. Il y a plein
Bien sûr. Et Audrey joue à beaucoup de jeux, et beaucoup de jeux indés en particulier. Donc du coup, tu vois, ça te montre un peu son univers à elle, ce qu'elle, elle aime dans le jeu vidéo, et c'est parfaitement retranscrit dans ce jeu-là. Donc, pour moi, c'est encore une fois, c'est une expérience à vivre. À l'époque, il faut se mettre dans le contexte de 2003, c'est-à-dire il y a maintenant 13 ans, c'était un jeu qui sortait du lot. Et donc c'est pour ça qu'il a marqué aussi, il a marqué autant de gens, c'est que il sortait du lot. Peut-être qu'en y rejoignant aujourd'hui, je me dirais ouais, quand même, aujourd'hui on fait quand même mieux, sans doute, mais il a marqué ça fait partie des jeux qui ont marqué leur époque, parce que ils étaient bons en termes de narration, de jeu, de créativité artistique, enfin voilà quoi.
D'accord. Ok, bon écoute.
Donc merci là, il va être attendu au tournant, je peux te le dire. Hein.
Oui, non, c'est sûr que.
Il y a une sacrée pression, hein, tu vois. Le truc, c'est quand t'attends 13 ans avant de sortir une suite et que ton premier jeu était vraiment top. Non, voilà, mais t'annonces que tu vas sortir une suite et que ton premier était très bon.
Mais il avait été annoncé, hein, déjà. Il avait été annoncé il y a quelques années, et puis il est parti en sous-marin. On n'en a plus parlé. Et là, je me demande si les pérégrinations et les mésaventures d'Ubisoft avec Vivendi n'ont pas poussé les gens à se dire
qu'ils fassent moins d'Assassin's Creed pour faire plus de d'autres choses en fait.
Ouais.
Et Beyond Good and Evil justement fait partie des autres choses qui mériteraient qu'on porte son attention dessus.
D'accord.
Et c'était toute génération en plus, hein. Faut pas oublier ça. C'était pas un jeu violent pour être violent. Enfin voilà.
C'était un jeu qui pouvait plaire.
C'était très coloré et c'était sympa quoi.
D'accord.
C'est pas un GTA.
Super. Et écoute, merci beaucoup Cédric. Une dernière note pour dire que il y a visiblement un film Gears of War qui est en train d'être développé par Universal. Là aussi, c'était un projet qui avait déjà existé au milieu des années 2000 et qui là est de retour en développement. Donc peut-être qu'on va voir les Dude Bros et Marcus Fenix sur le grand écran.
Là, ça peut donner un espèce de expandable version
science-fiction.
Il faut pas s'attendre à version science-fiction. Il faut pas s'attendre à du grand film, quoi. Mais ça peut être très fun et très no-brainer comme film, quoi. Mais déjà Gears of War, quand tu y joues, c'est déjà un film en lui-même. Et les remarques pleines de testostérone débiles, les insultes idiotes qu'ils s'envoient à la tête en permanence pour montrer qui a la plus grosse. C'est très drôle dans le jeu et c'est complètement assumé. Et si le film est dans la même veine, ça peut franchement donner un truc assez fun à regarder, quoi.
Ouais, je suis pas sûr que ça soit comme ça qu'il l'approche, hein. Mais peut-être.
Je sais pas, mais
ouais.
Ah, des fois, tu sais jamais où est la barre entre le premier degré et le recul sur les conneries qu'on raconte dans Gears, tu vois.
Ouais. D'accord.
Ouais, voilà.
Bon, écoute, on aura peut-être l'occasion de voir ça sur le grand écran dans quelques années. Et ça va être tout pour notre résumé de l'actu du jeu vidéo de ces deux dernières semaines. Un grand merci à Cédric encore une fois pour avoir été là et de nous avoir aidé à dépatouiller tout ça. Je pense que tu as déjà pas mal parlé de Geek Inc sur Twitch.
Oui, oui.
Mais quand même, rappelle-nous où on peut trouver ces émissions et ces streams et tout ça.
Le plus simple, c'est d'aller sur geekinc.fr. Voilà. Et là, vous avez très le bien. Lien vers Twitch et vers tout ça. Et quand il y a un live, d'ailleurs, il y a une petite bannière qui s'affiche et qui dit « il y a un live ».
C'est magique, la technologie.
Incroyable.
Magnifique. Et bien sûr, Cédric Bonnet sur Twitter. Merci à toi. On vous remercie aussi de nous avoir écoutés. Patrick, c'est moi. Je suis Patrick Béja, notre Patrick sur Twitter et notre Patrick sur Facebook. Vous pouvez me rejoindre là-bas aussi. Et on a bien sûr d'autres émissions sur frenchspin.fr, le site où j'héberge tous mes podcasts, dont le rendez-vous tech notamment, où on vous parle de toute l'actu tech, comme on le fait pour l'actu jeux vidéo ici. Et voilà, vous trouverez aussi d'autres émissions, Upload, Positron qui revient, c'est promis, également. Et bah, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Rendez-vous Jeu, avec cette fois enfin des vraies impressions de tests sur le PlayStation VR, et on pourra en parler en connaissance de cause. Ça, il était temps, je dirais, il était temps. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à dans 2 semaines. Ciao à tous.
Ciao.